France Musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est 7h30, c'est à vous. Eh bien oui, France Musique est à vous, donc nous attendons jusqu'à 9h vos suggestions musicales les plus belles, les plus rares, les plus étonnantes, les plus vous en fait. Puisqu'ici, nous écoutons vos coups de cœur que vous nous racontez avec vos états d'âme et votre sensibilité. Pas besoin d'être musicien ou musicologue, certainement pas, tout le monde est le bienvenu ici. Quelques exemples, des exemples de votre programmation pour ce matin, Jacques Brel, Elgar, Gesualdo ou encore de l'accordéon. Et le reste, c'est à vous de nous le dire en direct via les réseaux sociaux de France Musique et via notre adresse mail francemusiqueestavous@radiofrance.com. Notre jeu à 7h50 aujourd'hui pour gagner le disque de la maîtrise de Radio France et des pages chantres et symphonistes du Centre de musique baroque de Versailles, consacré à Philippe Hersant et Marc-Antoine Charpentier. Rendez-vous donc à 7h50 pour jouer. Nos deux chroniqueurs ce matin à 8h. Une œuvre, trois idées avec Marc-Olivier Dupin. Nous allons danser ce matin avec lui, avec la valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Et en fin d'émission, à 8h50, c'est Tendez l'oreille avec Christophe Dillis qui se demande si nous chantons correctement la cinquième note de la ballade anglaise Greensleeve. Eh bien voilà, la réponse ce sera à 8h50. Je vous souhaite la bienvenue, toute l'équipe est là et vous attend chaleureusement entre maintenant, tout de suite et 9h. Thank you. La deuxième variation précédée de la première, ainsi que du thème des variations pour piano sur une valse de Diabelli opus 120 de Ludwig van Beethoven. Des variations que le compositeur écrit à la demande de Diabelli, qui est éditeur et compositeur, qui propose à plusieurs compositeurs d'écrire des variations justement sur cette valse. Quelques noms à qui il a fait la demande, par exemple Schubert, Mozart, Liszt, alors âgé de 8 ans, ou encore Czerny ou Voriszek. Et quant au pianiste Piotr Anderszewski, que nous venons d'écouter, il sera lui en concert le 21 octobre, dans quelques jours à l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux avec le Chamber Orchestra of Europe, un programme Mozart, Haydn et Stravinsky. Et il faut, chers auditeurs, absolument écouter son dernier disque Bach consacré au livre 2 du clavier bien tempéré, absolument somptueux. À 7h36, merci d'être avec nous en direct. France Musique est à vous. Accueille également vos messages vocaux. C'est l'occasion pour nous de vous entendre, d'avoir vos réactions, vos témoignages et le timbre de vos voix. Un premier message ce matin, c'est celui de Sabine qui vient nous parler d'un musicien qu'elle aime beaucoup.
Alexis Ciesla est un clarinettiste et compositeur français. Il compose des styles plutôt classiques, jazz, klezmer. Ce disque qu'il a fait avec le clarinettiste Philippe Béraud est vraiment un rayon de soleil dans un ciel gris. Et je l'ai beaucoup écouté pendant le Covid et ma fille qui se destine à devenir clarinettiste a beaucoup travaillé ce morceau Fantasia. Je pense que tous les auditeurs de France Musique méritent de connaître ce compositeur et ce clarinettiste qui sont tous les deux avec un talent fabuleux. Voilà. Thank you.
Elle est chouette cette danse, merci Sabine. Une danse vive, brillante, pleine de couleurs et d'énergie pour bien se réveiller ce matin. C'était la fantaisie du concerto pour clarinette d'Alexis Siezla, l'une des danses de ce concerto dans lequel le soliste passe de la clarinette en si bémol à la clarinette basse et puis du cor de basset à la petite clarinette. Et ce concerto est joué ici par Philippe Béraud, accompagné par le chœur de clarinette du Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse de Paris. Pour nous contacter, eh bien oui, parce que nous écoutons vos messages vocaux, mais nous vous donnons la parole aussi en direct par téléphone. Vous pouvez réagir, répondre à nos posts sur les réseaux sociaux, nous donner vos coordonnées. Et puis, nous avons donc un premier auditeur avec nous depuis Ars-en-Ré. Bonjour Jean-François.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci, bienvenue dans l'émission. Est-ce que vous êtes sur votre jonque actuellement?
Non, pas du tout. Là, pour le moment, il fait un peu nuit. J'avoue même que j'ai pas encore pris mon café. Donc, je vais y aller tout à l'heure.
Mais voilà. Jean-François, mais vous êtes le marin, capitaine de cette jonque, ce navire chinois qui est amarré à l'île de Ré. Je pense que plusieurs d'entre nous, d'entre vous, même les auditeurs, voient de quoi il s'agit, puisque vous faites un peu partie du décor de l'île de Ré, Jean-François. En tout cas, la jonque.
Le bateau fait partie du décor, moi, je suis juste le capitaine ou alors le chef d'orchestre.
Vous êtes le capitaine depuis quand? Depuis combien d'années?
Ça fait 7 ans maintenant.
Mm-hmm. Elle a été construite quand, cette jonque?
En 1988 à La Rochelle.
Mm-hmm. Et alors, voilà. Vous partez en mer avec des gens qui peuvent y venir. Qu'est-ce que vous organisez?
On organise des super sorties en mer assez légères, avec le soir la journée ou la demi-journée. Mais voilà, c'est le temps d'une marée, en fait, parce que l'île de Ré, il n'y a pas d'eau, en fait. On a des problèmes de marée. Je ne sais pas si vous connaissez ça depuis Paris, mais ça existe sur la côte atlantique.
Mmh. Alors moi, non, personnellement, non, mais je pense que certains... Oui, est-ce que vous partagez des moments maritimes avec des musiciens? Vous organisez des concerts sur le bateau?
J'ai partagé des moments avec des musiciens. Des concerts, je n'ai pas fait, mais j'ai fait j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de musiciens, et notamment... les chefs d'orchestre, entre Monsieur Jean-Claude Casadesus qui a une maison à l'île de Ré, et Monsieur Marc Minkowski également.
Que vous avez rencontré il y a peu, vous nous aviez dit.
Voilà, c'est ça. Non mais on se connaît très bien et on aime partager ce moment entre la musique et la mer. Ce que je facilite l'accès à la mer et me facilite à l'accès à l'opéra. C'est plutôt sympa, on va dire. Très léger, c'est très bien.
Alors Marc Minkowski, que vous avez vu diriger donc une énième fois, j'imagine, en tout cas pour Robert le Diable de Meyerbeer à Bordeaux.
Voilà, exactement.
Tout récemment, et vous lui avez évidemment parlé, et nous avons échangé pour savoir un peu quel air vous vouliez écouter de cet opéra. Ça vous a plu, donc, cette dernière production qui était il y a quelques semaines, c'est cela?
Ouais, c'est ça. Il y a quelques semaines, c'est un opéra qui avait un peu disparu, enfin qui a été très très connu quand il a été joué, mais qui a un peu disparu, et en fait maintenant il ressort. Et j'avoue que j'étais privé de musique en live, en tout cas de concert lié à la crise sanitaire, et comme retour, 4 heures de musique m'a vraiment fait du bien, c'était super, et puis c'était fabuleux en fait. Donc le morceau, l'opéra dure 4 heures, donc ça c'est compliqué, mais...
On a pu choisir un air qui dure moins de 4 heures. Voici donc les débris non qui reposaient, donc l'invocation de Bertram qui décide de ramener à la vie les nonnes damnées.
C'est ça, exactement. C'est un passage qui m'avait plu, en fait, qui m'a plu, enfin entre tous les passages, parce que c'est très complet.
Oui.
Et j'en ai même parlé avec Marc Minkowski, il m'a dit « Ah, mais ce passage aussi, il est bien. » C'est vrai, tu as raison, Jean-François.
Ah bah voilà, s'il vous donne raison, Jean-François, tout va bien. On va donc écouter ça ensemble. Merci beaucoup. La prochaine sortie en mer pour vous, c'est tout à l'heure?
Non, là, je suis en déplacement. Je vais aller en Bretagne aujourd'hui. La jolie jonque païenne doit plutôt passer maintenant en mode hivernage.
Vous sortez moins en mer l'hiver?
Non, pas du tout.
Pas du tout même, d'accord. Ben, j'ai tout à apprendre sur cette jonque. Voilà, je vais venir à l'île de Ré très bientôt. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été avec nous. Et voici cet air donc, de Robert le Diable. Bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Erwin Schrott, baryton, accompagné par l'orchestre de Valence, dirigé par Ricardo Frizza, dans cet air Voici donc les débris, non qui reposaient, extrait de Robert le Diable, cet opéra créé en 1831 de Meyerbeer. À 7h49, c'est l'heure de notre jeu. Je vous laisse vous diriger vers l'onglet. Contactez-nous à la page de notre émission. France Musique est à vous sur le site francemusique.fr. Vous répondez à notre question et n'oubliez pas évidemment vos coordonnées complètes. À gagner ce matin, le disque de la maîtrise de Radio France et des pages, des chantres et des symphonistes du Centre de musique baroque de Versailles. Dans deux grandes œuvres opposées dans le temps, la messe à quatre chœurs de Marc-Antoine Charpentier et le cantique des trois enfants dans la fournaise de Philippe Herson. Un disque sorti récemment sous le label Édition Radio France. Alors pour gagner ce disque, voici la question : qui est la directrice musicale de la maîtrise de Radio France ? qui est la directrice musicale de la maîtrise de Radio France? Vous nous répondez via notre site à l'onglet « Contactez-nous » et moi, je vous donne la bonne réponse avec le nom des gagnants, évidemment, en fin d'émission, juste avant 9h. Vous pouvez donc jouer jusque-là. C'était à l'instant une suggestion sur Facebook de la part de Christine, l'un des trois répons du recueil des répons des ténèbres de Carlo Gesualdo, celui du Jeudi Saint, et à l'instant précisément le répon numéro 8, Una Ora, par cet ensemble au très beau timbre, Grain de la Voix, ensemble dirigé par Björn Schmelzer. Et tout de suite à 7h54, un grand saut dans le temps, puisque Gesualdo, lui, meurt en 1613, et Jacques Brel, lui, 365 ans plus tard. Une pensée aussi à Michel à Plancoët, qui nous a suggéré une œuvre de Jacques Brel. Et c'est Cédric sur Facebook qui nous propose d'écouter, entre autres pour une jolie Frida, qui nous écoute certainement, la chanson « Ces gens-là ». Ces gens-là, sur France Musique, bonne matinée avec nous.
D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
La voix de Jacques Brel sur France Musique avec cette chanson « Ces gens-là ». Jacques Brel, à l'honneur, demain soir, avec cette fois-ci « Ne me quitte pas » dans « Repassez-moi le standard », grand tube proposé dans différentes versions, choisi par Laurent Valero. C'est donc demain, dimanche, à 19h. Merci d'être avec nous pendant notre émission en direct sur les réseaux sociaux. Daniel, Nicole, Fabien, Régina, Aloïs, Jean-Christophe, Pascal ou encore Elliot, Anna, Damoglin, Perlis, Jeanne et même l'Orchestre Régional de Normandie. Voilà, tout le monde est là. Dans quelques instants, la suite de votre programmation musicale et la chronique de Marc-Olivier Dupin. À tout de suite.
La... radio fait sa révolution numérique avec le DAB+. Le DAB+, c'est l'équivalent de la TNT, mais pour la radio. Une technologie gratuite qui permet une écoute plus agréable grâce à une meilleure qualité sonore. Fini les grésillements et les changements de fréquence sur l'autoroute. Si votre poste de radio est équipé du DAB+, vous pouvez dès à présent, comme près d'un tiers des Français, écouter les radios de Radio France en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille, sur les axes routiers qui relient ces villes et bientôt partout en France. Toutes les infos sur radiofrance.com.
Il est 8h, tout juste. Merci d'écouter France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. France Musique est à vous, encore une heure durant laquelle nous écouterons, comme chaque samedi matin, vos suggestions musicales avec les émotions, les vôtres qui vont avec. Au programme, déjà quelques indices en attendant vos belles surprises qui nous arrivent en direct. Ferrabosco ou encore Toumani Diabaté. À 8h50, la chronique de Christophe Dillis qui va se demander ce matin si nous chantons bien la chanson anglaise Greensleeves. Rendez-vous donc à 8h50. Et tout de suite, la chronique de Marc-Olivier Dupin, une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabriel.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une danse que je vais un peu mieux prononcer certainement, en tout cas celle de Tchaïkovski.
Oui, avec la valse de la Belle au bois dormant, ici extraite de la suite symphonique.
Alors pourquoi cette valse de la Belle au bois dormant ?
Tout simplement parce que c'est une splendeur, l'émotion, l'intelligence, tout y est.
Alors vos trois idées, on va commencer par la première. Quelle est donc la première dont vous souhaitez nous faire part ce matin ?
Alors avant de tout vous dire, je dois un peu remonter dans le temps. Au cours du 19e siècle, la valse envahit toutes les pratiques musicales, de la mélodie à l'opéra, de la musique de salon à la musique symphonique. Or, ces valses ont en commun une structure métrique au service de la danse. La phrase musicale s'organise généralement sur une période régulière de 4 mesures à 3 temps. Ça fait oum-ploum-ploum, oum-ploum-ploum. Je ne chanterai pas plus.
Mais on pourrait danser.
Cependant, on rencontre une grande diversité de thèmes, comme par exemple dans ce tube que vous connaissez toutes et tous. Arpège de trois sons suivi de quelques notes répétées et le tour est joué. Mais dans la valse de la Belle au bois dormant, Tchaïkovski va beaucoup plus loin dans la subtilité. D'abord, son thème se déploie dans la durée. Il n'est pas d'une petite cellule mélodique, mais il est 4x4 mesures et il est d'une invention extraordinaire. Il donne d'ailleurs autant envie de chanter que de danser.
Marc-Olivier, je devine que votre deuxième idée sera sur la façon dont Tchaïkovski développe ce thème, cette belle mélodie.
Et oui, gagné, Gabriel. Dans cette valse, différents épisodes thématiques interviennent, un peu comme si le thème, en se promenant, rencontre d'autres personnages, et voilà qu'on le retrouve sous une autre forme, comme habillé différemment. Cette fois-ci, les violons jouent le thème dans le grave, tandis que les flûtes et clarinettes babillent dans l'aigu, et les autres cordes graves marquent les contretemps, mais sans jamais marquer le premier temps. Tchaïkovski redistribue ainsi les plans sonores de façon magique.
Thème qui se déploie dans la durée, le développement de ce thème Et Marc-Olivier Dupin, alors quelle est votre troisième idée pour cette valse?
Alors la troisième idée concerne l'introduction de la valse. Généralement, dans les valses, l'introduction est plutôt un moment de préparation, les couples se forment, règne alors le mystère ou le suspense, comme dans le beau Danube bleu. Ici, à l'inverse, c'est le tourbillon qui prépare au calme du début de la valse.
Olivier, pour retrouver les enregistrements de cette suite de La Belle au bois dormant, vous nous conseillez lequel ?
Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
J'imagine.
Et beaucoup de magnifiques. Alors, Karajan toujours, mais aussi Gergiev et beaucoup d'autres. Mais pour finir, j'aimerais vous proposer une petite valse qui est digne de Tchaïkovski, qui n'est pas Tchaïkovski, mais qui a été composée par le si délicieux violoniste Fritz Kreisler au son de velours.
Liebeslied de Fritz Kreisler par le musicien lui-même, ici Marc-Olivier Dupin. Merci beaucoup pour cette chronique, une œuvre trois idées bien sûr que l'on peut réécouter sur l'appli Radio France, à retrouver aussi sur notre site francemusique.fr. Merci beaucoup de nous avoir fait danser de bon matin.
Avec joie.
Et à la semaine prochaine.
Mais oui, avec plaisir.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous. Thank you.
l'instant à 8h11 la suggestion de Véronique qui, elle, nous a contacté via Twitter. Un titre malicieux, acrobatique, Chinatown, extrait du disque PlayStation du Motion Trio, trio d'accordéonistes polonais formé à Cracovie au milieu des années 90 et qui nous fait pulser l'instrument qui bondit dans le futur lumineux, dépoussiéré, un futur assez proche, d'ailleurs, dans le futur assez proche. Eh bien, rendez-vous avec Félicien Brut pour Brut d'accordéon, c'est demain dimanche à 15h30 pour continuer à écouter de cet instrument. Et précisément demain, d'ailleurs, le rendez-vous à 15h30, c'est sur le fabuleux destin de Joe Priva. Avec nous au téléphone tout de suite, notre deuxième auditeur en direct du Morbihan, Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour Gabriel.
Bienvenue dans l'émission. Alors vous êtes précisément à Auray. C'est
oui,
cela, Auray, à l'ouest de Vannes.
Oui, c'est entre Vannes et Lorient, oui.
Alors Thierry, ce matin, vous nous avez proposé une œuvre de Ferra Bosco, un compositeur italien du XVIIe siècle, mais on va parler un petit peu de vous aussi. Vous êtes scénariste.
Oui, j'ai fait une grande carrière, enfin une longue carrière de scénariste de télévision à Paris avant de revenir sur ma terre natale, dans le Morbihan. Voilà. Et puis j'ai également écrit des polars historiques, une série sur la guerre de 14 et une série qui se passe au début du 17e d'ailleurs, c'est la période
de Ferra Bosco, dont on va parler. Vous avez écrit donc pour la télévision, vous avez réalisé aussi vous-même des courts-métrages, des films?
Oui, j'ai réalisé 7 ou 8 courts-métrages et puis quelques documentaires aussi.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir de vous, Thierry, que vous nous conseillez, pourquoi pas ce week-end?
Non, en ce moment, j'ai un court métrage qui passe dans un petit festival très sympa à Auray dimanche. Mais autrement, vous savez, on googlise les gens aujourd'hui, donc on peut me trouver sur mon site et là il y a des liens pour pas mal de mes films. Mmh. Sur le site, c'est thierrybourcy.fr tout simplement.
Et vous avez aussi produit des longs métrages. Je vois que vous nous parliez de Hôtel du Paradis en 2011 de Claude Bern, par exemple, où là vous avez été dans la coproduction.
Oui, j'ai monté une société avec Claude au début des années 2007, oui. Claude Bern, oui. Mm. Donc, et on a produit son premier film Hôtel du Paradis. Et ensuite, j'ai gardé la société, donc je suis toujours le gérant, pour produire des courts-métrages de jeunes gens, beaucoup de mes anciens élèves, parce que j'ai donné pas mal de cours de scénario. Mm. Et donc, j'ai pu produire des jeunes. Donc, j'aime bien être dans la transmission, en fait.
Est-ce que certains de vos documentaires ou films parlent de musique? Aussi, ça peut arriver.
Oui, le dernier que j'ai fait, c'est sur un guitariste qui s'appelle Dan Arbraz. Mm-hmm. J'ai fait ce guitariste qui a beaucoup joué avec Alan Stevens. Ouais. Voilà, qui a été célèbre pour son dernier film, L'héritage des Celtes. Et donc c'était pour France 3 Ouest.
J'aime bien d'ailleurs ce que vous nous disiez sur le destin des Celtes, puisque vous-même vous êtes retourné en Bretagne depuis quelques années. Ils partent en voyage dès que possible, ils ont le mal du pays, ils composent de belles chansons en pensant à ce qu'ils ont laissé derrière eux, et puis finalement, ils reviennent. C'est ce que vous avez fait.
Oui, c'est comme les marins, le problème c'est pas qu'ils partent, c'est qu'ils reviennent.
Alors Ferra Bosco, fils, parce qu'il y a le père aussi, donc là c'est le fils qui est né en 1575, et vous vouliez nous proposer une de ses pavanes, Four Notes Pavane.
Oui, je suis très autodidacte en musique classique, et j'ai découvert la musique classique. Il y avait un seul disque chez mes parents, c'était la symphonie de Berlioz, c'était fantastique. Mm-hmm. Et curieusement, j'étais déjà attiré par le dies irae. J'ai découvert Bach sur des vieilles partitions abandonnées sur un piano. Et puis ensuite, j'ai des coups de cœur. France Musique m'avait fait écouter Spemnalium dans les années 1980. Ça avait été un grand choc pour moi de cette musique. Et qui est un peu la même époque aussi. J'ai gardé une grande affection pour ces musiques, en particulier pour les choses assez simples, comme ça, assez épurées.
Mmh. Et là, c'est assez bouleversant, ouais. Surtout dans la version que vous nous avez suggérée, le Richard Carr Consort, dirigé par Philippe Pierlot. C'est la version que nous allons écouter ce matin avec la soprano Suzanne Hamilton. Merci pour ce beaucoup de cœur que vous partagez avec nous ce matin. Et à très bientôt. Donnez-nous de vos nouvelles.
Je n'y manquerai pas. Merci, Gabriel.
Merci, Thierry.
Au revoir.
Thank you.
Four Note Pavane, Hear Me, O God, de Alfonso Ferrabosco, le fils, un compositeur très actif en tant que musicien de cour, mais aussi l'auteur de musique pour le théâtre. Voilà, ces quatre notes-là, idéales pour les danseurs, après la valse de Marc-Olivier Dupin, en tout cas celle de Tchaïkovski, pour avoir ce rythme et cette mélodie répétée et reproduire donc ces mêmes pas de danse. À l'instant, la voix de la soprano Suzanne Hamilton, accompagnée par le Richard Carconsort, dirigée par Philippe Pierlot. Merci pour vos messages qui nous arrive en direct. Geneviève qui nous dit que quand elle avait 10 ans, elle vivait dans le sud saharien et n'avait rien d'autre à faire que d'écouter de la musique, celle qu'on avait, dont Borodine, et entre autres ses steppes, dans les steppes de l'Asie centrale qui la ramenaient à ces dunes environnantes. Je les ai réécoutées, nous dit-elle, en lisant la steppe d'Anton Tchekhov, une musique qui nous donne une impression d'infini. Et puis la réaction également à l'instant d'un auditeur, Loïc, qui nous dit un réveil matinal pour écouter Alexis Siezla et qui nous en remercie. Il se prend au jeu également. Il nous propose l'écoute d'un jeune et talentueux clarinettiste également, Eugène Boza. Nous l'écouterons peut-être dans les semaines à venir. Merci également à vous, Rita, à Metz, pour votre message. Également Catherine à Bordeaux, Yves aussi, et puis Firmin à Brogue. Vous êtes très nombreux ce matin à avoir joué également au jeu, en tout cas. Merci aussi pour toutes vos suggestions que nous écouterons tout à l'heure ou dans les semaines à venir. Et puis un nouveau message vocal là qui nous est arrivé sur notre mail également, c'est celui de Mélina.
Quand j'écoute de la kora, et plus particulièrement Toumani Diabaté et Ali Farka Touré, j'ai un sentiment de mélancolie, heureuse, je dirais, de nostalgie. C'est des émotions très fortes, très belles. Pour moi, la musique, en fait, elle me transmet des émotions et la personne qui joue l'instrument nous transmet également ses émotions. Et quand j'écoute Toumani Diabaté, j'ai vraiment ces émotions qui me sont transmises directement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement touchant, parce que j'arrive à ressentir la sagesse de ce musicien et je trouve ça vraiment magnifique. Thank you.
Toumani Diabaté et Balaké Sissoko dans ce titre Bafoulabé. Bafoulabé qui est une ville au Mali à 400 km à l'ouest de Bamako. Et ce duo de kora donc enregistré au Mali en 1997 pour l'un d'eux, Balaké Sissoko. Eh bien, ce joueur de kora sera en concert à Perpignan au Festival de musique sacrée samedi prochain, le 23 octobre. En l'église des Dominicains, c'est à 18h30 avec une chanteuse, Fatim Kouyaté, et c'est en accès libre. Bonjour à vous, Abel et Corinne, ainsi que Paul et Michel dans la Creuse. Et puis à l'instant, un message de Christian à Fourmagnac dans le Lot. Beaucoup d'auditeurs se sont émus à l'écoute de la variation Nimrod d'Enigma d'Edouard Elgar. Il y a deux semaines, version que vous avez diffusée, c'était celle de Tsubin Mehta qui dirige l'orchestre philharmonique de Los Angeles. La version que propose l'ensemble vocal Voce 8, nous dit Christian, sous le titre Lux Eterna, est tout aussi bouleversante. Je n'entends pas beaucoup Voces 8 sur France Musique, nous dit-il, mais cet ensemble, moi qui suis chanteur, est fabuleux et nous offre une centaine de morceaux enregistrés extrêmement éclectiques. Et j'apprécie beaucoup que vous donniez aux auditeurs la possibilité de faire découvrir via France Musique certaines œuvres. Eh bien, voici votre suggestion. Merci Christian d'avoir réagi auprès de nous suite à la diffusion il y a deux semaines. Voici maintenant donc les Voces 8 de ce Nimrod d'Edouard Elgar.
Thank you.
L'ensemble Voces 8 dans ce Lux Aeterna, qui est en fait la variation Nimrod des variations Enigma d'Edouard Elgar, une suggestion de Christian. Vous aussi, en direct, comme dans la semaine, de jour comme de nuit, quand l'inspiration vous vient, vous pouvez nous proposer ce que nous écouterons d'ici 9h ou dans les prochains samedis. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille. N'hésitez pas à nous donner vos coordonnées si vous souhaitez intervenir par téléphone, nous en dire un peu plus sur vos émotions. C'est pas toujours très évident de parler de ce qu'on aime, mais on est là pour ça, en tout cas pour vous écouter, et nous serons heureux en tout cas d'écouter ce que vous aimez, vos grands coups de cœur musicaux ici sur France Musique comme tous les samedis matins. Et nous écoutons également vos messages vocaux. Il y en a un qui nous est arrivé, c'est le dernier ce matin que nous vous proposons, c'est celui de Marthe.
Bonjour France Musique, bonjour Gabriel et bonjour à tous les auditeurs. J'avais très envie de partager le plaisir que j'éprouve à l'écoute des interprétations de Christina Pluart et de son ensemble L'Arpeggiata. J'ai découvert leur univers avec l'album Music for a While, qui sont des improvisations autour de l'œuvre de Purcell. Alors je n'étais pas une grande connaisseuse de la musique baroque, et cet album a été pour moi en quelque sorte une porte d'entrée pour cet univers musical. Dans Music for a While, les arrangements jazzy s'adaptent vraiment bien à la musique de Purcell, et il me semble que ça souligne vraiment sa modernité. J'ai tout de suite été emportée par l'énergie et la bonne humeur qui traversent tout l'album, et le morceau que j'ai choisi, The Mock Marriage, est tout particulièrement joyeux et enlevé, et j'espère qu'il vous donnera autant de plaisir qu'à moi.
Was down. Bonnie talking, live and gay. Sit to Jenny making hay. Let us sit a little tea and prattle tea so sultry day. In long hair coated, a black browed maid. But Jockey was a wag and would nickels and wet. Reach me a fish of brew and cried out with one or two. I come up, one, buckle two.
La voix merveilleuse de Vincenzo Capezzuto, ce contre-ténor accompagné par l'Arpeggiata dirigé par Christina Pluart dans cet air Twas Within a Furlong, l'acte 3 de The Mock Marriage d'Henry Purcell. Christophe Dillis est en train de se moquer de moi, évidemment, face à moi, mais on lui demandera tout à l'heure. C'était une suggestion de la part de Marthe. Et tout de suite, eh bien, après les deux Anglais, Elgar et Purcell, nous allons écouter Albert Alain, sa toccata sur l'antienne Cantemus Domino que nous propose Jean-Philippe. Jean-Philippe qui évidemment se veut rendre hommage à ce musicien Albert Alain qui nous a quittés il y a maintenant 50 ans, le 15 octobre 1971. Il avait travaillé l'orgue avec Louis Vierne ou encore Gabriel Fauré. Et puis en 1924, il a succédé à Albert Renaud en devenant organiste, Albert Alain, de l'église de Saint-Germain-en-Laye, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Père de Jehan Alain ou encore Marie-Claire Alain, tous deux organistes. Et nous allons écouter justement sa fille Marie-Claire Alain sur l'orgue Cavalier-Cole de l'église Saint-Sulpice à Paris de cette toccata d'Albert Alain.
Thank you.
Marie-Claire Alain sur l'orgue Cavalier-Coll de l'église Saint-Sulpice à Paris, dans cette toccata sur l'antienne Cantemus Domino, l'opus 323 de son père, Albert Alain, qui nous a quittés il y a maintenant 50 ans, le 15 octobre 1971. C'était une suggestion de Jean-Philippe qui vit dans le Haut-Rhin et qui nous dit, pour lui rendre hommage, je vous propose donc cette diffusion de cette œuvre puissante mais colorée de brillance qui a émerveillé plusieurs de mes sens à mon adolescence. Et en parlant d'orgue, je vous conseille le festival de l'orgue de Chanqueuil dans l'Essonne qui a lieu ce week-end, aujourd'hui et demain. Un festival organisé tous les ans par l'association Musique et Patrimoine de Chanqueuil. Au programme donc un concert d'orgue d'œuvres de Jean-Sébastien Bach par François Ménissier en ouverture du festival. C'est ce soir à 20h30 et puis demain plusieurs conférences, messes et concerts donc ce dimanche 17 octobre, festival d'orgue de Chanqueuil. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure d'un mail que nous avons reçu de la part de Loïc, qui était très heureux d'entendre de la clarinette, celle d'Alexis Siezla et Philippe Biérot. Eh bien, nous allons écouter un autre clarinettiste dont il nous parle, jeune et talentueux, Joey Christophe, avec au piano Vincent Mussa, dans l'idylle d'Eugène Bodza. 8h47, merci d'être avec France Musique et bienvenue à vous. Pour clarinette et piano d'Eugène Bodza, interprété par Joey Christophe à la clarinette, accompagné au piano par Vincent Mussa. Une suggestion de Loïc ce matin pour France Musique est à vous. Merci pour vos messages qui nous arrivent nombreux. Jean-Paul à Salins-les-Bains, Françoise à Cadujac ou encore Pierre et Jean-Luc à Bordeaux. Et à 8h50, et bien maintenant, c'est l'heure de tendre l'oreille, la chronique de Christophe Dillis.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Vous remettez en cause un gros morceau du patrimoine de l'humanité aujourd'hui.
Oui, bah tant qu'à se lever tôt, autant le faire de façon spectaculaire. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, je vais parler, vous l'avez très bien dit, d'un morceau de patrimoine de l'humanité, la chanson Green Sleeves, ballade traditionnelle anglaise qui raconte, comme d'habitude, un chagrin amoureux. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously. Mon amour, vous me faites mal à me rejeter de la sorte, mais je ne vais pas vous faire l'historique de cette ballade aujourd'hui, puisque l'ami Max Dosholm, qu'on appelle d'ailleurs le Christophe Dillis de la semaine, tellement c'est bien fait, c'est bien ce qu'il fait.
Absolument.
Oui, il l'a très bien fait dans son maxi classique du 29 mars de cette année. Je voudrais plutôt vous parler d'un tout petit détail, une petite chose assez inconfortable qu'on y trouve dans la mélodie. C'est à la cinquième note. Tendez l'oreille. Ré, fa, sol, la, si bémol, la, sol, mi, do, ou ré, fa, sol, la, si bémol, voilà. Donc si on regarde bien dans toutes les reprises de cette ballade, dans tout le répertoire...
C'est vrai qu'on entend les deux.
On entend les deux, si bémol ou si bémol, ce qui fait que quand il s'agit de le chanter, on ne sait plus trop bien.
Et qui a raison alors ?
Eh bien voilà, c'est là la question. Et c'est là où je vais vous...
C'est vrai que ça fait une semaine que vous vous posez la question.
Ouais. Je vais vous emmener dans ma cuisine de musicien de musique ancienne, parce qu'en réalité, ce genre d'imprécision, on est obligé d'y faire face en permanence dans notre métier, dès qu'on aborde la musique de la Renaissance et de sa sortie vers le baroque. Aujourd'hui, si un compositeur veut un bémol, il le note à gauche de la note, et puis tout le monde est tranquille. Mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça. On fonctionnait par mode et pas par tonalité. Si vous voulez, je fais simple évidemment. Une mélodie fonctionnait avec un réservoir de notes fixé par le compositeur au début de la pièce. Alors je sais ce que vous allez me dire, Gabriel. Bah dis donc, ça devait pas donner de la musique très très variée, tout ça, alors que bon, votre fado, c'est pas non plus un feu d'artifice de surprise et de bigarrure. Et donc oui, pour sortir du monde du mode ponctuellement, pour agrémenter la mélodie, pour employer d'autres notes que celles de notre petit réservoir, on employait ce qu'on appelait la ficta, c'est-à-dire un petit accident, une note qui était altérée avec un dièse ou un bémol ou un bécard, ce qui permettait de donner à la mélodie d'autres contours que ceux permis par les notes du mode. Mais généralement, ces accidents n'étaient pas notés ou pas clairement explicités, ce qui pose aujourd'hui problème puisque ça demande un difficile travail d'enquête quelquefois pour savoir si telle ou telle note était altérée.
Alors, pour Greensleeves, on saura jamais vraiment en fait.
Eh ben, en réalité, si. Parce que, en fait, nous ne sommes pas dans le cas d'une ficta.
Mais on a hâte de connaître la réponse.
Ben, j'attends, je vous fais attendre.
Ah oui,
c'est tout un procédé presque cinématographique que je fais.
Suspense.
C'est la mise en scène radiophonique, Gabriel.
Si bémol, si bécard. Allez-y.
À cette époque, ce qui importait, c'était la place des tons et des demi-tons dans la mélodie plus que la hauteur absolue des notes. Parce que c'est ça qui rend une mélodie intéressante. D'avoir des fois des petits écarts de demi-ton, tan, tan, ou des grands écarts d'un grand ton, quand je bois du vin clairé, par exemple. Ce qui fait que le nom des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, n'était pas là pour fixer la hauteur définitive des notes, mais pour localiser les tons et les demi-tons. Ils sont où, les demi-tons? Eh bien, ils sont entre mi, fa et si, do. Et sauf qu'on n'employait pas encore vraiment si. Donc, ça donnait, par exemple, do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa.
Donc, pour Greensleeves.
Eh bien, sachant que la règle à l'époque, c'était de placer un fa juste au-dessus du la, à la place du si, qui n'était pas encore tout à fait en usage. C'est ce qu'on appelait la règle du fa super la. Ça donnait ré, mi, fa, sol, la, fa, la, fa, un demi-ton. Parce qu'en dessous d'un fa, on a toujours un demi-ton. Donc, mélodiquement, c'est bien ré, fa, sol, la, fa, la, sol, mi, do.
Et donc, c'est ça la réponse académique. Alors, pourquoi il y a un doute, toujours un doute?
Il y a un doute sur le bécard et le bémol. Eh bien, c'est là où ça devient beau. C'est que les temps changent, mais les vieilles mélodies restent. Toute la musique est passée de modal à tonal, de mélodique à harmonique, avec tout un tas de nouvelles règles. Et donc, il a fallu quelquefois plier ces vieilles mélodies, les aménager pour que ça rentre dans un accord. Si vous voulez, c'est comme une vieille abbaye, des vieilles pierres qu'on restaure, qu'on aménage. L'abbaye est toujours là, mais on lui met une nouvelle aile, une nouvelle toiture, un nouveau jardin, selon l'époque de la restauration. Si on met quelquefois un si bécard, c'est parce qu'on a décidé de penser en termes d'accord. On a décidé qu'on passait d'un accord de ré mineur A, un accord de Do, avec le Si bécard qui sert de sensible. Tendez l'oreille. Je peux vous proposer maintenant d'écouter Greensleeves du compositeur anglais du XXe siècle Ralph Vaughan Williams, avec non pas le demi-ton de rigueur, mais avec un ton, et ça sonne très très bien.
Merci beaucoup Christophe Dillis pour cette chronique. Vous dites que les temps changent, les vieilles mélodies restent, un peu comme les chagrins amoureux.
Oh, c'est très joli ça, Gabriel.
Bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Évidemment, nous pouvons réécouter votre chronique Tendez l'oreille sur notre site francemusique.fr et à réécouter aussi sur l'appli Radio France, si bécard, si bémol, toute la réponse est là-dedans. Merci et bien bon week-end.
Ben voilà.
Ainsi s'achève France Musique est à vous sur un ben voilà. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour vos idées musicales originales, curieuses, réfléchies, spontanées. Nous restons à votre disposition pour retrouver tous les disques auxquels vous pensez. Pour notre jeu du jour, il fallait nous répondre Sophie Janin, la directrice musicale de la maîtrise de Radio France. Bravo à vous, Benjamin à Lyon, Franck à Chamonix, je ne sais pas, Christine à Saint-Brieuc. Vous gagnez le disque R100 Charpentier de la maîtrise de Radio France, paru sous le label Édition Radio France. Merci à toute l'équipe de France Musique et à vous. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.